syllabe.
Paré pour la manœuvre ?
Non, mais on peut y aller là ?
La radio sauvage.
Place maintenant à Mythos. Le festival se poursuit bien entendu cette semaine avec toujours plus de péripéties et de pépites.
Et oui, le samedi 30 mars, Canine performait au cabaret botanique dans le cadre du festival Mythos. Le même soir, vous pouviez découvrir Aloïs Sauvage, Fakir ou encore Sarah Zinger. À cette occasion, Syllabe est allée à la rencontre du groupe féminin pour parler de féminisme et des valeurs essentielles pour Canine.
Alors effectivement, en fait, à la base, c'est vrai que c'est un projet solo dans le sens où je l'ai porté pendant plusieurs années, tout écrit, tout composé. Ensuite, c'est vraiment au moment où il a fallu le transformer pour du live qu'on a commencé à... Enfin, que moi, j'ai pensé qu'il fallait que tout soit joué. Et c'est là que le collectif m'a plu. Et je pense qu'aussi, c'est quand on a porté un projet si longtemps tout seul, il y a quand même beaucoup de doutes. Il y a des super moments parce qu'effectivement, on avance comme on a envie puisqu'on est seul, donc on est libre. Mais il y a des moments où ça peut peser un petit peu. Et dès qu'on a commencé à répéter avec les filles, j'ai senti que tout à coup, quelque chose de très fort s'allégeait dans ma vie. Et donc, j'ai voulu vraiment mettre ça en avant. Et puis, c'est des valeurs qui me semblent importantes actuellement de revenir à quelque chose de collectif, d'être un peu dans un non-individualisme et de montrer voilà, quelque chose de solidaire, d'une force. Et avec l'animalité, il y a aussi ce truc justement de la loyauté. Pour moi, Canine, je pense au chien, par exemple, qui pourrait effectivement mourir pour son maître. Donc il y a une grande loyauté, il y a une relation de confiance poussée à l'extrême. C'est ce que je défends aussi dans un certain humanisme, quoi.
Et ce n'est que depuis 2016 que Canine a un visage. Depuis, elle joue entre visage masqué et visage visible, une manière de jouer entre l'invisible et le sacré.
Oui, c'est vrai que le masque, il ramène deux choses. Il y a un truc de mystérieux, forcément, puisqu'on ne voit pas une partie du visage. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la sacralisation, je trouve, qui est hyper important. Et de redonner dans l'art, en tout cas, une notion plus spirituelle, plus sacralisée, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, c'est comme ça que le masque est né. Ensuite, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à sentir que si je gardais tout le temps le masque, déjà, je ne pourrais pas m'exprimer, puisque pour moi, il est sacré, je ne vais pas aller en interview avec un masque. Il y avait ça, et il y avait aussi... ce truc d'être enfermé, quoi, de ne pas pouvoir changer d'état. Et donc, ça m'a semblé hyper important de pouvoir incarner le projet en étant plus dans le quotidien, donc sans masque, et aussi avec quelque chose toujours de sacralisé. En fait, je n'ai pas voulu choisir, j'ai voulu avoir les deux, quoi. Exactement, ouais, c'est pouvoir défendre des idées qui sont de l'ordre de la société, des valeurs, des idées, et en même temps, et c'est ça qui me semble très important, et je rejoins ce que tu disais sur l'invisible, il me semble hyper important dans une société où même on veut se révolter et ça, je trouve ça très très bien, qu'on retrouve aussi une part de spiritualité qu'on ne laisse pas aux religions qui sont révélées et qui ont un pouvoir ecclésiastique, mais qu'on retrouve en tant que femme notamment une spiritualité qui est liée à la nature, qui est liée au groupe, au féminin, à l'animalité. Voilà, ça pour moi c'est vraiment très très important.
Canine, c'est donc un projet artistique 100% féminin, un hasard qui a finalement donné beaucoup de sens au groupe et à ces fameuses valeurs dont Canine nous parle.
En fait, oui, à la base, ça s'est fait de façon un peu malgré moi. Je suis ravie que le hasard ait fait les choses comme ça parce que j'étais pas tant là-dessus, sur le côté que femme, etc. Mais en fait, comme j'ai tout composé et écrit toutes les voix, c'est au niveau du live que ça s'est créé. J'ai su qu'il fallait évidemment que je trouve des chanteuses pour pouvoir faire les chœurs que moi je chante sur la production, sur le disque. Et c'est ensuite au moment de chercher les autres musiciennes, donc les instrumentistes, que je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver des femmes à Paris pour très professionnelles. Qu'ils soient batteuses ou contrebassistes, voire pianistes, que c'était pas évident. C'est là que je me suis dit que c'était très intéressant. D'autant que sur scène, tout a un sens. Et revoir encore un énième projet où les chanteuses sont des femmes et sont dans un truc de sensualité, les hommes et les postes un peu virils sont tenus, enfin les musiciens les instrumentistes sont des hommes, j'étais un peu saoulée par ça. Ensuite, c'est au moment où on a commencé à répéter ensemble qu'il y a eu un truc magique qui s'est créé. D'autant qu'on répétait en cercle, donc on se voyait toutes. Il y a vraiment un truc d'énergie qui est apparu et auquel j'avais pas pensé avant, en fait. Et la sororité, tout ça est venu vraiment avec Canine, par l'expérience de ça. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que maintenant, c'est quelque chose qui me passionne et je sens bien qu'en plus, j'ai pas du tout fait le tour. Qu'il y a des choses mystérieuses même pour moi, de l'ordre, un peu de la magie, quelque chose dans le féminin qui est génial à découvrir, que je ne maîtrise pas du tout, mais qui me fascine, quoi. Donc voilà, on continuera entre femmes sur Canine.
Et ces valeurs autour de la sororité aboutissent à un discours fort sur les féminismes. L'occasion de s'affirmer sur la scène publique pour Canine.
On est dans une ère quand même où les choses commencent à évoluer. On peut dire être féministe sans que tout d'un coup on ait la sensation qu'on a envie de couper tous les pénis des hommes qui nous entourent. Donc ça m'a pas porté de préjudice. En tout cas les gens que ça dérange, je m'en fous puisque ils me dérangent aussi. Voilà.
Sur ce message fort, on remercie Canine d'avoir pris le temps de nous parler de ses valeurs, de son féminisme et de ce beau projet artistique. Son album Dune est sorti le 22 février dernier et on écoute tout de suite un extrait, Sweet Sway.
Très bon ça, Canine, Sweet Sway, et c'est maintenant le trio Del Grace qui lui est à la tête du blues moderne et qui nous a fait l'honneur de partager la vision de cette musique ancestrale. Une guitare, une batterie, un tuba, c'est très simple, cela suffit à faire vibrer nos âmes. On les écoute parler de l'esprit du blues.
En soi, le blues, ça veut dire tellement de choses en même temps. Donc, je ne sais pas si on réinvente le blues. En tout cas, on ne veut pas s'approprier le blues pour nous. Le blues, ça reste des influences et ça reste peut-être une manière de jouer avec en mettant l'esprit et les émotions en avant. C'est peut-être ça la particularité du blues, en tout cas, tel que nous, on le vit, plus qu'une musique qui serait la musique en 12 mesures, etc. On n'est pas dans la forme forcément traditionnelle du blues, mais ce qu'on revendique, par contre, c'est être dans l'esprit du blues.
Oui, oui. Non, mais l'esprit du blues, c'est... Je dirais que, déjà, quand on dit le mot blues, bah forcément, on pense à une forme musicale vraiment située à un endroit géographiquement, c'est aux États-Unis. voilà, musique noire américaine, afro-américaine. Donc il y a un certain style de musique quand même. Et après, quand on voit l'esprit dans lequel c'est fait, ce à quoi ça fait référence, c'est-à-dire parler du quotidien, parler des peines, de tout ce qu'on a, et en fait, utiliser la musique pour dépasser, transcender ces peines et ce mal-être, et parler de tout ce qui nous, tout notre accade tous les jours, ça c'est l'esprit du blues, je dirais. Et en quelque sorte, cet esprit-là, bah, il est international. Et c'est vraiment le truc humain. Je pense que c'est valable pour tous les styles musicaux, y compris la chanson réaliste française. Voilà, qu'on prenne la Saudade et, au Brésil. Comment ça s'appelle ? Il y a la Morna aussi, au Cap-Vert. Voilà. Il y a tout un tas de formes musicales différentes, mais qui expriment la même chose. C'est-à-dire, je vais pas bien, mais ça va mieux en chantant. Voilà, ou en jouant. Et je pense que l'esprit du blues, chez nous, c'est ça. Alors peut-être que ce qui se passe avec nous, c'est qu'on fait des emprunts à la musique de blues afro-américaine. Parce qu'il y a des liens historiques très très forts qui existent depuis longtemps entre la Caraïbe française et la Louisiane. Et que bah, nous, on met le doigt sur cette espèce de chaînon manquant, en tout cas qui a un petit peu disparu comme ça des radars. Et c'est juste qu'on le remet un peu à la lumière, en lumière.
Le trio Delgrès chante en français, mais aussi en créole. Mais bon, c'est pas ça l'important.
Le seul langage qui soit vraiment universel, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer un homme ou une femme de n'importe quelle culture. Il y a à peu près les mêmes signaux qui vont être utilisés, le même langage corporel, les mêmes choses qui vont transmettre les mêmes émotions de base, la peur, la joie, toutes ces choses-là, la douleur. Tout s'exprime de la même manière, quels que soient les mots. Et donc, on est vraiment là-dessus. Et donc, on a choisi un langage qui nous permet à nous d'être vraiment au plus juste de nos émotions, de ce qu'on ressent, c'est-à-dire le créole. Et après, on espère que les gens vont connecter là-dessus à un niveau qui n'est pas juste le niveau des mots, mais à un niveau, humain, émotionnel.
Delgrès laisse s'exprimer les langages corporels émotionnels en ce moment même au cabaret botanique à Mythos. On écoute, quant à nous, leur titre phare, Mojodi.
Moi, je peux te dire, moi, je dis.
Merci Delgrès pour ce morceau Mojo dit. Ça doit suer quand même dans le cabaret botanique en ce moment à Mythos. Quant à nous, on va terminer avec une belle rencontre, puisque Mythos, c'est des rencontres musicales mais aussi humaines. Ces rencontres, c'est celle de Juliette, notre reporter, avec Flesh Love, une artiste que Syllab recommande très très chaudement.
Flesh flecking too easily, muscles uncoiling from my bones. Unwrap me like a gift you've been desperately wishing for. Cartilaginous flower, can you see the light inside? Do you remember when we used to be wild and free? I'm a shapeshifter, I can become anything I want.
Bonjour, donc Amina Kadeli, de ton vrai nom entre guillemets, Flesh Love. Ton premier album est paru le 1er mars, Naga partie 1. Moi j'en suis hyper fan, vraiment je l'aime énormément. Moi je t'ai surtout découvert d'abord sur tes positionnements sur le féminisme, et je vais beaucoup te parler de ça, je te préviens, parce que pour moi c'est important. D'abord on va revenir sur ton parcours. Dans ta conférence TEDx, tu racontes que quand tu étais petite, tu voulais être avocate et que finalement tu es chanteuse. Et je voulais savoir du coup, il s'est passé quoi entre les deux? Est-ce que c'est vraiment voilà, cet intérêt pour les mots, cette passion pour les mots qui t'a plu avant tout dans la musique et qui du coup t'a orienté vers l'un ou vers l'autre? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix en fait?
En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait une puissance dans les mots et une vibration, et j'avais l'impression, tu vois, moi les études très longues, très périlleuses, c'était pas spécialement ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être dans la vie et dans le concret assez vite, même si je me suis quand même retrouvée à l'université, tu vois. Et pour moi la musique, je me rends compte que tu sais, tout le monde a son espèce de BO de sa vie, et il y a des morceaux qui peuvent vraiment changer ta vie, t'accompagner, et j'aimais bien cette idée d'être une espèce d'accompagnatrice fantôme dans la vie des gens. Tu vois, t'es présente et en même temps les gens te connaissent pas. Je trouve que c'est super beau et ça permet de rencontrer du coup des gens dans le monde entier, d'être là, tu vois, je suis à Rouen, jouer ce soir, non c'est assez fou, surtout que j'adore voyager, donc c'était quand même un moyen de, ouais, de mettre les deux ensemble, en commun.
Du coup, justement ce que je te dis, moi je t'ai connue d'abord sur le féminisme, est-ce que ça t'a permis aussi d'avoir une voix dans ce domaine-là? En gros ma question c'est, est-ce que parce que t'es musicienne et chanteuse et que du coup t'as une autorité entre guillemets, ça te permet de donner une voix et parler féminisme, ou c'est l'inverse qui a motivé? Est-ce que c'est l'un ou l'autre qui t'a motivé?
De toute façon tout est lié, tu vois. C'est marrant parce que quand j'ai commencé à parler, sachant que j'avais pas trop de musique qui était sortie, les gens m'ont dit tu vas voir, ça va tuer ta carrière, le fait de parler de ton expérience passée, le fait et je me suis dit bon, je m'en fiche, j'y vais. Et en fait tu sais, c'est un vase communicant, les deux m'inspirent. Genre, vu que ça me touche profondément dans ma vie de tous les jours, je me voyais pas ne pas l'incorporer dans mon projet. C'est profondément qui je suis et ce en quoi je crois. Tu vois, je lis tout le temps des livres. Là, j'ai acheté un livre de Grayson Perry, je sais pas si tu connais, qui s'appelle The Decent Man, sur l'hypermasculinité, la déconstruction. C'est un artiste qui s'habille aussi en tant que femme et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une thématique, tu sais, qui me passionnera toute ma vie, je pense. Et du coup, voilà, ça fera toujours partie de ce que je fais.
Et justement, t'as un son qui parle de ça, de masculinité toxique. Tu parles beaucoup de l'univers et de toi dans tes titres, justement, dans tes morceaux. Et moi, c'est des mots qui résonnent beaucoup. C'était une volonté de trouver des mots qui puissent parler à tout le monde. Est-ce que c'est thérapeutique pour toi et du coup, t'en parles et ça te les gens? Enfin voilà, est-ce que c'est de l'intime ou est-ce que c'est vraiment une volonté de toucher les gens sur ce domaine-là?
Et ben, c'est pas du tout réfléchi. C'est-à-dire que dans tous mes morceaux, tu prends Moussouna, il n'y a pas de refrain, il n'y a aucun morceau qui rime, seulement aucun. Parce que souvent, c'est genre juste, je commence à écrire et ce texte descend et je me dis, bon, des fois je le comprends sur le moment, des fois je le comprends pas. Moussouna, il s'est révélé à moi. Tu sais, c'est comme une espèce de parabole comme ça. Du coup, je me suis pas dit, ah oui, il faut avoir un espèce de lexique, tu sais, universel qui va toucher les gens. Non. Et surtout que quand j'avais écrit Moussouna, c'était quoi? C'était en 2000, il est sorti en 2017, en France ou même en Suisse, ou bon, après, j'ai envie de voyager dans le monde entier, mais il n'y avait pas spécialement ce truc de mettre de la pop avec de, tu vois, avec de la spiritualité. Donc c'était pas du tout un plan de commercial et tout. Non, c'était juste genre ça me touche profondément, donc j'y vais et puis ça rentrera sûrement en vibration avec quelques personnes du coup.
Stars shining all over my body, I'm a work of art. Stars shining all over my body, I'm my own jewelry, I'm my own jewelry. You can see me from far.
You can see me from far. You can see me from far. Some think I'm a planet, 'cause they see me glowing in the dark. Some think I'm an old star.
Est-ce que tu penses être politique? Est-ce que c'est une catégorie dans laquelle t'inscrirais? Parce que du coup, ton art est politique.
Tu sais, Nina Simone, elle disait que les artistes, c'était des témoins d'une époque. Quelle que soit ta prise de position, pour moi, c'est politique. Le fait d'être dans l'espace public en tant que femme, c'est politique. Le fait d'interagir, le fait de monter sur scène et dire « voilà, ça, c'est mon travail », c'est politique. Du coup, une existence non politique, c'est... ça n'existe, je vois pas, tu vois, à quel point... C'est marrant parce que, tu sais, il y a des mots comme ça qui font peur. Il y a même pas mal d'artistes féminines, quand tu leur dis « est-ce que vous êtes féministe ?» Elles sont « ah non, moi je suis pas féministe ». Parce qu'elles ont peur que ça les enferme quelque part et que, du coup, ça mette une distance entre elles et leur public. Moi, je suis profondément féministe parce que je pense que chaque être humain devrait l'être. Et je suis profondément politique parce que j'ai aussi envie que les choses s'améliorent. Donc ça demande un certain engagement au quotidien. Il y a cette phrase que j'adore qui dit « on peut pas être une étoile au ciel si on n'est pas une lampe à la maison ». Donc tu vois, il y a mon engagement politique dans ma musique, mais il y a aussi mon engagement politique dans ma vie personnelle d'être humain, tu vois, et de comment je parle aux gens, je rentre en connexion et tout ça. Ça, c'est politique aussi.
Est-ce que le fait d'avoir mis le mot féministe ouvertement dans l'espace public, est-ce que tu penses que ça a ralenti pour le coup ta carrière? Est-ce que ça a été un blocage? Est-ce que des fois tu le ressens?
En Suisse, qui est un pays beaucoup plus conventionnel et d'où je viens, et où il y a eu Calvin à Genève qui a fait des ravages avec le protestantisme extrémiste, oui, je le sens. Je sais qu'il y a des journalistes qui ne veulent pas me recevoir. Ils ne veulent pas me recevoir parce qu'ils savent très bien. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'ils savent déjà qu'ils n'ont pas toujours été très clean dans leur... dans ce qu'ils ont fait. Donc ils ont un espèce d'acquis de conscience. Et ils savent que je vais les remettre à leur place. Autant t'as des gens qui vont être là, j'ai envie de la rencontrer. Mais du coup, ceux qui vont me rencontrer, c'est ceux qui vont vraiment écouter ce que je fais. Donc c'est plus intéressant, tu vois. Ça me posera des vraies questions comme toi. Ceux qui ne sont pas sensibles à ça, j'ai pas envie de les rencontrer, j'ai pas envie de perdre mon temps. Mais oui, en Suisse, je sais que ça m'a. Il y a des gens qui veulent pas me rencontrer pour ça. J'ai pas très envie de les rencontrer non plus. Non.
Dans une interview de Manifesto, donc 21, je sais pas si ça se dit en anglais, tu dis, je cite, « Après, attention, c'est vite tentant de devenir spécialiste de tout, d'imaginer que tu peux parler pour tout le monde quand on te pose des questions. » Donc avec ton statut, c'est quand même un risque, je pense, enfin, genre, forcément, quand on est dans l'espace public, etc. Est-ce que justement, c'est pas trop compliqué de tomber dans ce risque-là? Deuxième question qui va avec, c'est, par exemple, je te parle là, de l'interview, et ça fait 6 minutes exactement qu'on parle, et je parle surtout de ton féminisme plus que de ta musique. Est-ce que ça t'agace pas d'être catégorisée comme ça, justement?
Pour répondre à ta question, je me la répète tout le temps, cette phrase. Et puis des fois, quand on me demande des conseils sur comment les femmes doivent se comporter, ça, je suis là, déjà, je suis pas Jésus, et même Jésus, déjà, on s'occupe de soi-même. Je peux juste parler de mon expérience personnelle et j'ai pas envie d'avoir un discours culpabilisant parce que chacune fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et son est la somme de ses expériences. Et non, parce que pour moi, toutes les portes mènent à ma musique. Tu sais, moi, mon envie, c'est de faire quelque chose de pluridisciplinaire. Donc, autant le fait d'avoir quelque chose d'engagé, de faire des TEDx, ça m'intéresse. Autant le fait de peut-être faire des performances de danse un jour, ça m'intéresse. Autant peut-être travailler autour de l'herboristerie, ça m'intéresse. Donc, moi, il n'y a rien qui, tu vois. Je pense que toutes les portes peuvent mener partout et puis ça permet aussi d'avoir une porte d'entrée pour venir me rencontrer, écouter ma musique. Non, mais franchement, moi, je crois pas. Je crois que c'est très français. Tu sais, les Américains sont beaucoup plus genre touche à tout, tu sais, dans ce truc. Non, franchement, non. Puis, j'ai l'impression que, tu sais, t'as des espèces de stratégies. Moi, j'en ai aucune. Alors, en fait, je préfère être comme je suis. Et puis, voilà. Parce que sinon, tu te fatigues trop. T'es dans une espèce de contrôle de ce que tu dois donner, de ce que tu... Non, mais tu deviens schizophrène. Je pense qu'il y a des gens qui deviennent schizophrènes. Donc, moi, il y a personne qui me dit tu dois dire ça et pas dire ça. Dieu merci, parce que c'est un cauchemar pour cette personne-là et pour moi.
Pareil, dans la même interview, tu parles du fait que t'as envie que ta musique ait une approche pédagogique. Et du coup, il y a clairement une dimension spirituelle et féministe dans ta musique, dans tes clips, dans ton personnage, si je peux l'appeler comme ça, on sait pas trop. Et c'est ces deux messages-là que dont t'as envie de parler vraiment le plus, le féminisme et la spiritualité, c'est ce qui te constitue principalement, en fait.
Ouh, si tu savais tout ce qui me constitue. Non, mais dans le sens où tout m'intéresse. Et quand je disais pédagogique, c'est-à-dire que déjà, moi, j'aime beaucoup apprendre les choses. Par exemple, Festa Tocandira, j'ai une fascination donc, sur ce rite initiatique, mais aussi sur les fourmis au même moment. Donc, je lisais des livres sur les fourmis, et donc j'avais envie de parler d'un microbe qui s'appelle Dicrocolium dendriticum, qui attaque le cerveau des fourmis. Bref, c'est tout un délire absolument incroyable, le monde des parasites. Et du coup, quand c'est pédagogique, c'est aussi pour moi, et je trouve ça cool que les gens puissent se dire, mais c'est quoi ce truc chercher? Oh purée, ça me donne sur les fourmis. Tu vois, j'aime bien cette espèce de toile immense. Et spiritualité féminine, mais il y a tellement de choses. La science me passionne. J'adore Neri Oxman, qui est une grande biologiste et designeuse. Écrit sur Kurt Gödel, qui était un grand logicien mathématicien. Franchement, ça se trouve, demain, je vais faire un album sur, je sais pas moi, sur les plantes. Franchement, j'adore l'éthologie. L'éthologie me passionne. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va revenir aussi sur la deuxième partie
Justement, c'est le lien ce que j'allais dire. Tu as fait des études sur le genre, sur le post-colonialisme, l'éthologie justement, et tu as travaillé sur la pornographie. Est-ce que c'est tes études et donc ce croisement de tout ça qui t'a permis de te conscientiser? Parce que tu as quand même un discours très, très minutieux. Tu fais super attention, j'ai l'impression, enfin, pas oui, forcément attention, c'est peut-être naturel, mais attention à ce que tu dis, à la place que tu as, voilà, à faire attention à ce genre de choses. Et pour moi, je trouve ça, c'est ça qui est fascinant en fait, je trouve ça dingue. Est-ce que c'est ce mélange de ces études-là qui a créé ça?
Je pense qu'à partir du moment où tu nais femme, il y a toujours plein de choses qui se passent dans ta vie où tu te dis il y a quelque chose de problématique. Moi, très tôt, genre, j'habitais dans un village en Suisse. J'avais 6-7 ans, je me faisais siffler sur le chemin de l'école par des messieurs qui avaient l'âge d'être mon père. Ça m'a traumatisée. Ce que j'imaginais, si c'était des mamans qui sifflaient des petits garçons. Ça, qu'est-ce qui a changé en moi que je comprends pas mais qui génère ça? Et qu'est-ce qui fait que ces hommes ont le droit de me jeter à la gueule leur désir? Donc j'ai toujours eu cette conscientisation-là. Mais effectivement, toutes ces études, elles te permettent de déconstruire. Mais c'est vrai que c'est un immense. Genre, lire du Virginie Despentes, lire du Audre Lorde. Audre Lorde, moi, elle m'a. Parce que t'as beau avoir une conscience qu'il faut respecter les différences de tout un chacun, mais c'est encore autre chose de le lire par une femme noire, lesbienne, tu vois. Là, j'ai lu Bell Hooks, que je trouve incroyable. J'avais lu Fatima Mernissi chez les Asma Lambaret, tu vois. Zahra Ali, dans le féminisme plutôt musulman. Je sais pas, tout ça, franchement, je trouve ça fascinant. J'ai Edouard Said pour l'orientalisme. Et franchement, moi, ça a changé ma vie, quoi. Vraiment. Non, non. Par contre, t'as une phase, je sais pas si toi tu l'as eu, où t'es à vif et tu vois tout ce qui se passe, en fait. Exactement. Et t'es là, waouh, est-ce que je peux revenir de cet état-là? Est-ce que je peux retrouver une espèce de légèreté? Et je trouve qu'il n'y a plus de pas en arrière. Et tu peux plus revenir en arrière. Oui, mais faut la trouver autrement. Faut la trouver autrement. Mais légèreté par rapport à ça. Et puis, il faut aussi, moi, quelque chose qui m'a donné beaucoup plus, pas de légèreté, mais qui m'a permis de prendre une dimension différente, c'est tout l'intérêt sur l'hypermasculinité, l'hypervirilité. C'est-à-dire que je suis bien sûr que le patriarcat, dans un premier temps, profite plus aux hommes, mais je pense que ça fait des dommages collatéraux partout. Et les hommes, on parle à tant d'hommes blancs dans certaines positions, il y a plein d'hommes racisés qui n'en profitent pas, plein d'hommes blancs non plus. Et il y a ce dont Bell Hooks parle, de cette douleur silencieuse de tous ces hommes qui vivent pas qui n'ont pas le droit de vivre dans leurs émotions. Même dans des couples de femmes féministes, avec des femmes féministes, tu vois, où dès qu'un homme tout d'un coup montre une vulnérabilité, les femmes elles ont peur, elles disent mais qu'est-ce qui se passe, tout va s'écrouler. Donc ça c'est très difficile. Je veux pas faire le travail à la place des mecs, hein. Je suis pas en train de les plaindre, mais ça m'offre une espèce d'empathie et une conscientisation des rapports de pouvoir et c'est assez intéressant parce que du coup les discussions avec les mecs aussi peuvent être assez intéressantes. Par rapport à tes influences, parle de Miyazaki, de Khalil Gibran, je sais pas comment ça se dit, Le Petit Prince version Moyen-Orient. Est-ce que ça aussi ça t'a conscientisé? Est-ce que ça influence ta musique aussi? Mais tout, tu sais, ce que je mange, ce que je vois, peut-être notre discussion, une odeur, tout, tout. Moi je pense que t'as un espèce de canal, donc tout influence ma musique. Miyazaki, oh putain, Miyazaki, en fait Miyazaki, ce que je trouve extrême. Déjà, ce qui est très rare, c'est que la majorité, les héroïnes sont quasiment tout le temps des petites filles. Donc ça, c'est quand même très rare. Et puis, je trouve qu'il a une connexion avec l'enfant intérieur, la spiritualité, l'animisme qui est très très fort. C'est-à-dire que Miyazaki, tu le regardes et il parle à une partie de toi avec laquelle on est peu en connexion, mais qui est tellement consécutive de constitutive de ta personne. Et du coup, ouais, Miyazaki me touche énormément parce qu'il a une forme de poésie. Tu sais, ce regard qu'il porte d'enfant intérieur, d'enfant sur le monde. Je me dis, tiens, le mec, je sais pas, il a plus de quoi, 80 ans, je sais pas. Mais je trouve ça magnifique en fait. Et Khalil Gibran, c'est un livre qui s'appelle Le Prophète. Oui, ça fait partie de mes livres de chevet, comme La Conférence des Oiseaux, tout ce genre de livres. Mais en fait, moi, tu vois, chaque lecture, ça me. Tu vois ce que je veux dire, ça. On sait tellement peu de choses en fait. Donc chaque lecture, tu te rends compte que tu seras jamais assez. Mais bon, t'apprends à chaque lecture. À quel point tu es ignorante, franchement, hein.
Et justement, cet univers voilà, très graphique quand même, est-ce que ça a influencé la façon dont tu imagines tes clips, par exemple? Comment ça influence ta façon de créer, le personnage que tu as, ces choses comme ça?
Quand je compose la musique, j'ai déjà une idée de l'esthétique. Après, j'ai la chance de travailler avec Roberto Greco, qui est un ami de ma grande sœur, ça fait 10 ans que je le connais, avec lequel on travaille tout ensemble. Je viens avec des morceaux, des idées, des machins, lui il me redonne des idées, on travaille ensemble. Que ce soit les clips ou les pochettes. Et moi, je suis très fidèle. D'ailleurs, Amina, en arabe, ça veut dire... en arabe, ça veut dire la personne sur laquelle tu peux compter, sur laquelle tu es fidèle. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au pouvoir de la communauté, du lien et tout ça. Donc, quand tu peux collaborer avec des gens, c'est dur. Hein. C'est deux états de vulnérabilité qui se rencontrent. Il faut qu'il y ait un espace de bienveillance pour que ça opère cette magie-là. Donc du coup, ouais, j'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens assez incroyables, mais dans tout en fait.
C'est justement par rapport à la collaboration, donc tu parlais de ça. Et par exemple, tu as fait un titre donc, avec Rhône. Et ça va être un peu bizarre comme question, mais est-ce que c'est pas... Quand on fait si attention, qu'on est si minutieuse, comme je disais tout à l'heure, aux mots qu'on utilise, à la façon dont on se positionne, est-ce que c'est pas dur de créer avec quelqu'un justement ?
Très bonne question. Rhône, c'est un peu... un accident de la vie, un heureux accident de la vie, parce que j'aime beaucoup son travail. Notamment, tu sais, Alain Damasio, l'écrivain, ils ont fait un morceau ensemble qui s'appelle Bora Vocal. Et Rhône, c'est quelqu'un que j'ai rencontré avant de collaborer. Et j'ai tout de suite senti son énergie. C'est quelqu'un de hyper généreux, hyper sensible, hyper féministe dans sa façon de collaborer avec l'autre. Mais t'as bien raison, je peux pas travailler avec n'importe qui et je le ferai pas. Après, malheureusement, des fois, tu peux pas tout éplucher sur les gens et tout. Mais tu sais, j'ai aussi tendance à croire que ton énergie, elle attire des gens. Genre, quelqu'un qui est profondément anti tout ce que je défends, il viendra jamais travailler avec moi. Il aura pas envie. Et tous les deux, ça va pas, tu vois. Ça marchera pas. Donc, c'est vrai que j'ai la chance de collaborer avec des gens qui sont comme dans la. Et même, tu sais, les techniciens, techniciennes, musiciens, musiciennes. Parce que j'ai des techniciens et des techniciennes, musiciens et musiciennes. Ils sont tous dans cette ouverture-là du cœur, parce que sinon ils pourraient pas venir travailler avec moi, tu vois, ça les embêterait à la fin que je parle de ça. Non mais c'est vrai. Donc je m'entoure de gens qui sont sensibles à ma vibration et moi je suis sensible à la leur. Et tu gagnes tellement de temps et d'énergie. Tu peux changer personne à part toi-même, donc entoure-toi des gens avec lesquels tu... C'est tout de suite, il y a quelque chose qui se passe de joli, tu vois.
Bah merci pour ce très beau conseil, pour le mot de la fin. Merci à toi et puis bah très bon concert à Mythos du coup.
Merci beaucoup. Realize your full potential. What you see is not is true. Oh no. Oh no, no, no. Can you feel the hours are moving? Can you see the dimension opening? This is where you come from, my love. This is where we all come from. You're a shapeshifter. You can become anything you want. You are power. You're a shapeshifter. You can become anything you want. What if everything that surrounds us, everything that we perceive as reality, was a perpetual daydream? What if we had the power within ourselves to activate our complete vision, to drone in the meanders of reality, to make our environment shift? Would you take the risk to discover your real self? Because we are all so magic, if only we knew. We are shapeshifters.